Seigneur, c'est un privilège ce matin de pouvoir être réunis ici dans ce lieu et de pouvoir ouvrir encore avec pleine liberté la parole de la vérité, la parole de Dieu, Seigneur. Nous te remercions pour la série que nous sommes en train d'examiner ensemble sur les 10 commandements. Seigneur, tu vois que c'est riche, c'est profond, ça fait mal quelque part parce que nous voyons, et c'est le but de la loi, nous voyons combien nous sommes loin de la perfection de Dieu. Et cela, Seigneur, nous montre combien nous avons besoin de notre Sauveur, Jésus-Christ, lui qui est notre pardon, qui est notre sacrifice. Et Seigneur, tu vois que pour nous qui te connaissons, ces 10 commandements sont un guide de vie. Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, eh bien, ces commandements révèlent en nous et en eux, Seigneur, leurs péchés. Et leur montre qu'ils doivent venir à Christ pour être sauvés, que l'homme ne peut pas par lui-même, par ses bonnes œuvres, se sauver. C'est impossible, puisque Dieu est parfaitement saint. Donc voilà, fais ton œuvre ce matin dans chacune de nos vies. Merci, car les plus jeunes sont parmi nous, Seigneur, pour ce 5e commandement, et je te prie pour eux. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de s'asseoir et écouter un message, mais aujourd'hui, je te prie que le sujet les intéresse et qu'ils réalisent que, eh bien, Dieu leur parle aussi, Seigneur, à tout âge. Et que pour nous qui sommes plus vieux, Seigneur, qui avons encore peut-être des parents âgés, eh bien, de nouveau, que tu nous parles et que tu nous aides à appliquer ces choses à ta gloire. Et je te remercie maintenant pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mais écoutez, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, où nous abordons aujourd'hui le 5e des 10 commandements. Au verset 12, nous avons ce 5e commandement que j'ai intitulé, parce que c'est le commandement, « Honore ton père et ta mère ». D'accord ? « Honore ton père et ta mère ». Mais j'aimerais lire ce commandement. Donc c'est un verset. Un verset, le verset 12 de Exode 20, et je lis. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Moi, j'aime bien ces textes courts. Pas vous ? Mais bon, les textes courts, parfois, amènent à des messages longs. Ça, c'est le problème. Mais j'espère que ça sera équilibré aujourd'hui. Alors, c'est vrai que nous vivons dans une société et dans une époque vraiment intéressante. Voici un petit peu comment, moi, je caractérise la société d'aujourd'hui vis-à-vis de ce commandement. Beaucoup d'enfants aujourd'hui élèvent leurs parents. Je répète, écoutez bien ce que je dis. Beaucoup d'enfants aujourd'hui élèvent leurs parents. On a l'impression que les parents ont pour beaucoup perdu leur autorité sur leurs enfants, et ce sont les enfants qui règnent. La délinquance juvénile atteint des proportions sans précédent. Alors, dans les pays de l'Orient, les enfants désobéissants ont toujours été punis sévèrement. Dans la Bible, les délinquants juvéniles étaient réprimandés de manière extrêmement sévère. On va voir ça dans quelques instants. Mais de nos jours, on a l'impression que les termes « discipline » ou « punition » ou « fessé », est-ce qu'on ose prononcer le mot, sont devenus des termes impopulaires, des termes indésirables, voire cruels. Un mal qu'il faut éliminer de la société. Un auteur l'a dit comme ceci. Nous vivons dans une société d'orphelins intentionnels. Les jeunes, dit-il, semble-t-il, veulent être libérés du joug de leurs parents aussitôt que possible pour trouver leur indépendance. C'est vrai. La psychothérapie moderne nous dit que notre vrai problème, c'est nos parents. Et qu'il faut s'en débarrasser, voire les éliminer de la société pour que notre soi authentique puisse s'épanouir dans notre vie d'adulte. C'est vrai que nous vivons dans une sorte de société, une ère thérapeutique. Il ne faut pas abîmer la psychologie de l'enfant, ne rien lui imposer et surtout pas la volonté des parents. De peur de lui faire du mal. Car l'enfant doit pouvoir s'épanouir, doit pouvoir s'actualiser psychologiquement. Les parents sont donc devenus, écoutez bien ce que je vais dire, Les parents sont donc devenus le problème et non plus la solution pour des enfants équilibrés. En fait, notre société nous dit que les parents empêchent l'enfant de s'épanouir. Elle conclut que les enfants sont globalement en bonne santé si ce n'était pas pour leurs parents qui gâchent tout. Je caricaturise un petit peu, peut-être, mais on n'est pas très loin. Pas très loin du tout de cela. Alors, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que la Bible dit exactement le contraire. Voici ce que la Bible dit. Elle nous apprend que nos petits trésors mignons, qui sont le problème, c'est ça le problème. Parce qu'ils sont nés dans le péché, ils ont des cœurs tortueux, nous dit la Bible. Et ce sont eux qui planifient la haute trahison régulière contre leurs parents. Ça, c'est ce que la Bible dit, en fait. Les parents ont la responsabilité d'élever leurs enfants pour qu'ils deviennent sensibles à leur cœur tortueux, afin qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour être délivrés. Et donc, les parents doivent commencer très tôt. Un auteur qui s'appelle Moller dit ceci, je cite, « Nous savons que l'alignement de l'âme est instruit par la conformité extrême du corps. Quelque chose se passe chez l'enfant lorsqu'il apprend à obéir à ses parents avec son corps, son cœur devient plus tendre et son âme plus à l'écoute de la vérité. » Très intéressant. De ce fait, mes amis, le cinquième commandement est fondamental. Il faut savoir que chaque génération trouve des nouveaux moyens pour rejeter ce commandement, le commandement que nous voulons lire ce matin et étudier. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors, quelques généralités maintenant sur ce cinquième commandement. Des généralités avant de rentrer dans le détail. Alors, avec ce cinquième commandement, nous entamons ce que nous appelons souvent la deuxième partie de la loi. Les commandements 1 à 4 géraient notre relation entre nous et Dieu, et les commandements 5 à 10 gèrent notre relation entre les hommes, homme à homme. Ce commandement donne l'impression, à première vue, écoutez bien ce que je vais dire, d'être dirigé vers les enfants. D'accord ? Donc c'est une des raisons qu'on a suggéré que les enfants soient ici ce matin, parce que c'est vrai que c'est un commandement, on a l'impression qu'il est vraiment dirigé vers les enfants. Mais, alors, ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. Pourquoi ? Parce que, est-ce que ça veut dire alors que les commandements 1 à 4 sont pour les adultes ? Les commandements 6 à 10 pour les adultes, mais là, au milieu, il y a un petit commandement pour les petits-enfants. Ça paraît pas très logique, ce serait même absurde. Non, ce commandement, comme les autres, est conçu pour les adultes en premier, mais bien sûr pour les enfants également. Et en fait, si on prend le contexte, vous rappelez que le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte, ils sont dans le désert, le peuple est formé, et là, Dieu donne la loi au peuple. Et donc, c'est important de le voir, que Dieu dirige ce commandement, tous les commandements, aux enfants d'Israël, son peuple qui va entrer dans son pays, Canaan. Et donc, ce commandement, comme les autres, fait partie de l'alliance de Dieu avec son peuple. Honorer le seul et unique vrai Dieu, commandement 1 à 4, veut dire honorer son père et sa mère. Commandement 5. Et du fait que ce commandement est répété dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 6, entre autres, nous savons qu'il est applicable à nous aussi. Il est réapplicable au Nouveau Testament, à nous qui sommes chrétiens. Donc, si tu es adulte, si tu as un père et une mère, alors ce commandement est pour toi aussi. Et c'est intéressant, je trouve que notre fidélité envers Dieu, on le voit ici, les commandements 1 à 4, commencent quelque part dans notre maison, dans notre foyer. Notre relation avec nos parents va en grande partie déterminer notre relation avec Dieu. Si tu as cultivé honneur envers tes parents, tu vas probablement apprendre à cultiver honneur envers Dieu. Si en revanche tu as cultivé dédain envers tes parents, alors il est probable que tu as appris à cultiver le dédain vis-à-vis de Dieu. L'apprentissage dans le foyer est donc clé, et notre réaction à nos parents indique probablement comment va être notre réaction vis-à-vis de Dieu. Donc ce n'est pas un petit commandement. Ils sont tous énormes et hyper importants. Alors, pour l'examiner, je propose deux grands points tout simples. Premièrement, l'explication du cinquième commandement. Et deuxièmement, l'application du cinquième commandement. Donc la première partie va être un petit peu plus technique, donc les jeunes, accrochez-vous. La deuxième partie va être très très pratique, d'accord ? Vous allez vraiment, et on va tous pouvoir comprendre comment nous devons honorer nos parents. Alors regardons l'explication du cinquième commandement. Premièrement, voyons sous ce grand point, le premier petit point, l'ordre d'honorer son père et sa mère. Regardez ce que le texte dit. Il dit « Honore ton père et ta mère ». Voilà. Honore ton père et ta mère. Que veut dire honorer ? Alors c'est intéressant, dans la Bible, dans le hébreu, ce mot veut en fait dire être lourd ou rendre quelque chose lourd. Littéralement, voilà ce qu'il veut dire. Et on a une définition quelque part dans 1 Chronique 4 et le verset 9 où il est dit que Jabez était plus considéré, voilà le mot, considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « c'est parce que j'étais enfanté avec douleur ». Bref, l'idée c'est ici de considérer quelque chose. Alors, l'idée du poids c'est ça, c'est reconnaître ton père et ta mère comme des gens qui ont du poids. Et lorsqu'ils ont du poids, ils doivent recevoir honneur. Ça, c'est l'idée ici. Ah, maman et papa, ah, c'est pas rien, c'est maman et papa, ils ont du poids. Et on se range. Ça, c'est l'idée, d'accord ? Alors, notez, il dit, honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère. Qui est premier en ligne ici ? Papa. Papa. Et dans le judaïsme, la responsabilité de l'éducation des enfants reposait en premier sur le père. Le père était le premier enseignant, celui qui transmettait le savoir. Et dans Proverbe 1:8, Salomon dit à son fils, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Donc, papa, sur papa repose quelque part la responsabilité, bien que les deux ensemble ont ce rôle d'éduquer les enfants. C'est intéressant aussi, on voit dans Genèse 2, lorsque Dieu crée Adam et Ève, dans Genèse 2, 24, il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc de nouveau, nous voyons l'idée de quitter son père et sa mère. Alors bien sûr, la mère aussi avait un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. Et là, c'est intéressant, on le voit très bien dans le Nouveau Testament, parce que c'est clair, c'est pour ça que j'y vais. Mais dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, Paul parle à Timothée, me rappelant de tes larmes, etc., gardant le souvenir de foi sincère qui était en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. Donc il fait référence à sa mère et à sa grand-mère, et dit, ben voilà, tu vois, elles t'ont transmis la foi. Et aussi dans le chapitre 3 et le verset 15, il est dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Donc là, on voit tout simplement que Timothée avait sa mère et sa grand-mère qui ont inculqué à cet enfant la vérité de la Bible, qui a mené ensuite à sa conversion probablement par Paul. Tout ça pour montrer que le père en premier, mais la mère aussi, avait ce rôle, n'est-ce pas, d'éduquer l'enfant, qui veut dire que l'enfant devait honorer père et mère. Bien sûr, il y a l'implication d'un mariage ici. Moi, j'ai trouvé intéressant que Genèse 2:24 nous dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour fonder sa famille, se marier à son épouse. Mais ça ne veut pas dire abandonner et ne plus jamais leur parler, parce que maintenant nous voyons dans le cinquième commandement qu'il faut les honorer. Donc il faut quitter d'un côté et honorer de l'autre. Très intéressant, n'est-ce pas? On n'abandonne pas ses parents. Donc voilà l'ordre d'honorer son père et sa mère. Deuxièmement, on voit la justesse, je dis bien justesse, d'honorer son père et sa mère. C'est quelque chose de juste. C'est normal. Pourquoi? Allez avec moi à Éphésiens chapitre 6. On y va tous, d'accord? Éphésiens 6, parce que vous allez voir combien c'est normal que nous honorions nos parents. La question, on pourrait la poser comme ceci. Pourquoi les enfants devraient-ils honorer leurs parents? Eh bien, parce que le rôle des parents est prescrit dans la parole de Dieu. C'est juste, c'est la volonté de Dieu, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de discussion possible ici. Et là, on le voit très bien résumé, hein, c'est nouveau testamentaire, mais vous allez voir, c'est repris. On va voir le verset 1. Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est juste. Honore ton père et ta mère. Donc, il reprend le cinquième commandement. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Et vous, pères, donc là c'est l'idée de parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. Et maintenant il explique comment élever un enfant. Si vous aimez les formules, en voilà une. Vous dites, John, je ne sais pas comment élever un enfant. Ah. Verset 4, c'est la clé. Regardez ce qu'il dit. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. Comment? De participe présent, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà comment on élève un enfant. Deux choses, on les corrige et on les instruit. C'est ce que le texte dit. Alors regardons un petit peu plus en détail comment on fait. Premièrement, il faut les corriger. Haha. Alors voilà le truc impopulaire de nos jours. C'est le rôle du magistrat. Vous savez qu'en tant que parent, vous êtes magistrat, vous êtes juge. Eh ouais. Les parents sont les dispensateurs de la discipline à leurs enfants. Il faut les corriger. Alors j'y trouve intéressant, pourquoi est-ce que correction vient avant instruction ici? Il dit qu'il faut les corriger et les instruire. Il n'a pas dit qu'il faut les instruire et les corriger. Et bien, je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Parce qu'un enfant, quand il est petit, il ne parle pas encore, il n'entend pas, il ne comprend pas l'instruction. Donc il faut commencer avec la correction et ensuite instruire lorsqu'il est capable de comprendre. Mais avant qu'il comprenne, il faut corriger. Oui, mais je vais abîmer la psychologie de mon enfant. Faux. Absolument faux. La Bible nous dit que c'est faux, parce qu'il faut le faire. Mais pourquoi doit-on corriger un enfant? Vous dites, ah, ben alors ça, c'est rien de plus simple à répondre. Parce que premièrement, enfin, il y a plusieurs choses, mais dans Jérémie, et le verset 17, chapitre 17 et le verset 9, nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Ton petit bout de chou a un cœur tortueux et méchant. Je sais que ce n'est pas populaire hein, ce que je dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Il est né avec ce problème. Allons encore plus loin. Proverbe 22, 15 nous apprend un truc vraiment intéressant par rapport à nos petits bouts de chou. Il dit ceci. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Ton enfant, si tu regardes dans son cœur, tu vas voir la folie. Ton enfant, globalement, il est fou. D'accord, c'est pas moi qui le dis, hein. Je me cache complètement derrière la Bible ici, mais j'ai eu trois enfants et je peux vous dire, et j'étais enfant. Je peux vous dire que c'est vraiment vrai tout ça. Vous dites, ouais, mais John, quand ils sont nés, ils sont tout mignons, gentils, tu vas pas me dire qu'ils sont quand même nés comme ça. Ah, écoutez, je vous lis le psaume 51, verset 7, où David écrit, il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mes amis, voici la mauvaise nouvelle. Nous sommes nés pécheurs. Nous héritons de notre nature pécheresse, de nos cœurs tortueux, rebelles, de nos parents. Mais tu dis, mais alors, John, quelle est la... Mais c'est perdu d'avance alors. On pourrait penser que c'est perdu d'avance. Mais heureusement que la Bible est là pour nous aider encore. Que faut-il faire? Ben regardez, Proverbe 22, 15. Ben on a vu, hein, il faut corriger et instruire, n'est-ce pas? Corriger et instruire. Alors dans la correction, Proverbe 22, 15. Incroyable. Regardez, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Comment résoudre ce problème? Il le dit. La verge de la correction l'éloignera de lui. Je répète. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. C'est ce que c'est une verge de correction? C'est une verge qu'on utilise pour corriger. C'est pas pour chatouiller. Pour faire mal. Et j'ai toujours dit que Dieu a donné, il a créé le corps humain de manière merveilleuse. Parce qu'il y a une partie du corps humain qui est plutôt derrière et en bas, bien rembourrée. C'est parfait pour ce genre de choses. Parfait. Ça marche très très bien. Mais ça va encore plus loin que ça. Parce que dans Proverbe 23, juste à côté, regardez ce qu'il dit au verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Ouais, mais John, tu sais, c'est vraiment dur de donner des fessées. Écoutez, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Donc, il ne faut pas essayer de tuer ton enfant, d'accord? Je sais qu'il y a certains parents qui pourraient être tentés de vouloir tuer leur enfant. Il ne faut pas essayer de les tuer. Il faut juste être ferme. N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant, écoutez le résultat, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mais t'allez voir, c'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'il y a un effet spirituel sur la correction d'un enfant. La correction physique d'un enfant atteint son âme. Et mènera cet enfant un jour à réaliser que lui est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Alors je sais que c'est pas très populaire de dire ça de nos jours. Ma femme me dit, John, fais attention à ce que tu dis parce qu'un jour ils vont venir t'arrêter. Mais non, écoutez, c'est la parole de Dieu. Mais elle m'a promis une lime en prison, d'accord, une lime, elle va me piler brownies, d'accord, elle est très très bonne en prison. Non, mais c'est... Mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la discipline corporelle est un retour au Moyen-Âge, un retour à la barbarie, parce que nous vivons dans un âge sophistiqué. Mais écoutez, la Bible, elle est vraie jusqu'à la fin des temps. Rien ne change. Le cœur est le même, la solution est la même. Et la règle biblique est celle-ci. La douleur physique d'une justice appliquée par les parents, qui sont juges et jurys, bien sûr, avec amour, mais ils agissent quelque part à la place de Dieu en quelque sorte. Et cela touche l'âme de l'enfant. Les enfants apprennent très vite à cause. La cause et l'effet. Et corporellement, la douleur fait comprendre aux plus jeunes qu'il y a quelque chose qui s'appelle la loi, la justice, la punition, et que la désobéissance a une conséquence. Comment vont-ils apprendre que l'enfer est une réalité et attend celui qui reste dans son péché s'il ne comprend pas déjà l'effet de son péché dans le monde d'aujourd'hui. Donc on est en train d'apprendre à l'enfant, attention, il y a des conséquences. Et de rejeter Christ a une conséquence éternelle. Donc ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas simplement, écoutez, je vais créer un bon citoyen. Alors ça c'est très bien, d'accord, de créer des bons citoyens par nos enfants. Mais écoutez, ça touche l'âme ici, ça touche l'éternité. Il y a un article récemment qui est apparu aux États-Unis dans un quotidien très lu. Ils ont fait un sondage chez les PDG des plus grandes sociétés aux États-Unis. Les PDG des plus grandes sociétés aux États-Unis. Étonnamment, ils ont découvert que la plupart des PDG des plus grandes sociétés aux États-Unis avaient tous reçu des fessées lorsqu'ils étaient enfants. On se demande qui fait ce genre de sondage, d'accord ? Mais aujourd'hui, ça me sert. C'est vraiment intéressant, je trouve. Alors, bien sûr, ça a choqué le monde d'apprendre que nos dirigeants des plus grandes sociétés ont reçu des fessées quand ils étaient petits. En Australie, les fessées sont apparemment interdites, comme dans beaucoup de pays d'Europe. Je crois qu'en Espagne, dans les pays nordiques, c'est officiellement interdit de donner des fessées. Ce qui a été découvert dans un autre sondage anonyme, c'est que 80% des Australiens croient aux fessées. Malgré l'interdiction, 80%, attention, hein. Et que pour les mamans qui ont des jeunes enfants à la maison, le chiffre monte à 90%. Ceux qui déclarent souvent ne pas croire aux fessées changent d'habitude d'opinion lorsqu'ils ont des enfants. Alors, je vais citer un ami. J'ai parlé avec un ami récemment, un ami non chrétien. Alors, il ne connaît pas le Seigneur, il ne connaît pas la Bible. Mais il m'a dit ceci. John, moi je crois au fessé. Ensuite, il m'a dit, si tu ne disciplines pas des enfants, ils te traiteront tôt ou tard comme de l'excrément. C'est ce qu'il m'a dit. Et je me suis dit, waouh, c'est fort, mais c'est pas faux. Lui-même a compris. Un commentateur a dit ceci, tout parent voit dans le visage de son enfant l'esprit de dédain et de défi. Le parent sait également que cette attitude n'est pas là par hasard, mais qu'elle est enracinée dans le cœur. C'est une attitude de haute trahison, préméditée contre l'autorité parentale. Si cela n'est pas stoppé par l'autorité des parents, alors une insurrection aura lieu qui sera inarrêtable plus tard. J'ai trouvé assez amusant. Donc, première chose qu'il faut faire pour élever un enfant, c'est de le corriger. Voilà, c'est ce que Éphésiens 6:4 nous dit. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut l'instruire. Il faut l'instruire, c'est ce qu'il dit dans Éphésiens 6:4. Bien sûr, il faut expliquer. À fur et à mesure que l'enfant grandit et qu'il comprend, il faut lui expliquer tout. Tout. Et qu'il y a des conséquences à la désobéissance, mais aussi des conséquences positives à l'obéissance. Et ça, on le retrouve dans Deutéronome 6, hein. Au verset 6, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Il dit « Écoutez, parents, profitez de tout instant, matin et soir. Lorsque vous êtes avec vos enfants, profitez de ces instants précieux. Je sais parce qu'ils grandissent très vite, vous savez. » Mais profitez de ces instants et enseignez-leur, bien sûr à leur niveau de compréhension, enseignez-leur les choses qu'ils doivent savoir de manière intentionnelle, constante, régulière, répétée, mémorisée, par votre propre exemple aussi. Car les enfants sont comme les éponges, ils aiment copier et ils vont copier leurs parents. S'ils vous voient lire la Bible tous les jours, ils vont commencer peut-être à vouloir la lire. Mais s'ils vous voient jamais ouvrir la Bible, peut-être que ils ne seront pas intéressés. Ben ça, c'est, si ce n'est pas intéressant pour maman et papa, ben pourquoi ce serait intéressant pour moi? Voyez-vous, le foyer chrétien devient une école, devient presque une église, presque un gouvernement. Et là, ils peuvent apprendre les choses qui vont un jour les amener au Seigneur. Quelque part, on pourrait dire, et c'est fort hein, ce que je vais dire, mais c'est vraiment presque une honte que dans un foyer chrétien, les parents n'inculqueraient pas la parole de Dieu à leurs enfants. Donc, on explique ce cinquième commandement. On a vu l'ordre d'honorer son père et sa mère. Deuxièmement, la justesse d'honorer son père et sa mère, parce que c'est ce que Dieu veut. Troisièmement, les conséquences de ne pas honorer son père et sa mère. Écoutez, là, c'est incroyable. Incroyable. Il faut savoir que ce commandement n'était pas anodin et facultatif. Dans la Bible, la délinquance juvénile était réprimandée de manière extrêmement sévère et dans certains cas, tenez-vous bien, la peine de mort. Regardez. Allez avec moi, Exode 21, on y va tous, d'accord? Exode 21, parce que je veux que vous voyez ces versets de vous-même. Vous n'allez pas vous dire, ouais, mais John, il dit n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi, là. Enfin, des fois, peut-être, je dis n'importe quoi, mais j'espère pas aujourd'hui, d'accord? Exode 21 et le verset 15. Regardez ce qu'il dit. « Celui qui frappera son père ou sa mère sera quoi? Puni de mort. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça dit. Si un enfant frappe ses parents, il est redevable, il était redevable à la peine de mort. Vous dites, ouais, c'est plutôt sévère. Ouais. Exode 21, 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera quoi? Puni de mort. Tu frappes, tu maudis, puni de mort. Lévitique 29. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père et sa mère, son sang retombera sur lui. Il parlait de sang, peine de mort. Proverbe 20, 20. Proverbe 20, 20 dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il meurt. Allons maintenant tous à Deutéronome 21. Là, c'est incroyable. Deutéronome 21. verset 18. Écoutez, c'est un scénario. Si un homme a un fils indocile, Deutéronome 21, 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant même pas après qu'ils l'ont châtié, ça peut arriver. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle. Il n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. C'est étonnant, non? Les reproches ici, c'est qu'il était indocile, rebelle, il n'écoutait pas la voix de son père et ni de sa mère. Lorsqu'il était châtié, il se livrait à des excès, à l'ivrognerie. La peine, les parents prennent l'enfant vers les anciens de la ville, qui implique un jugement officiel. Ils écouteront les reproches apportés par les parents. Donc, il y a vraiment un jugement. Et tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Raison donnée, ôtez le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. Vous dites, mais c'est incroyable. Ben oui, moi je réagis pareil. Alors vous dites, est-ce que ça a été appliqué? Écoutez, on ne sait pas historiquement si ça a été appliqué. Il n'y a pas des cas très clairs et précis qui montrent que cette loi a été littéralement appliquée. Mais qu'elle ait été appliquée ou pas n'est pas la question. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que pour Dieu, ce n'était pas une petite affaire. Ce commandement n'était pas à prendre à la légère. Donc ça, c'est le côté négatif. Alors, quel est le côté positif? Quatrième sous-point, les bienfaits d'honorer son père et sa mère. Ben, retournons au commandement dans Exode 20, où là, il explique le bienfait. Alors bien sûr, maintenant, premièrement, moi je crois qu'il y a trois niveaux ici, mais on verra. Premièrement, il dit, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que, voici le résultat, tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, voilà, si vous honorez vos parents, lorsque vous irez dans le pays de Canaan, vous y resterez longtemps. En revanche, si vous n'honorez pas vos parents, ce sera éclipsé et accourté. C'est le contexte, l'histoire et l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël, son peuple choisi. Et donc, en tant que peuple choisi, dans le cadre de son alliance, il leur donne une terre, Canaan. Et il leur dit tout simplement, « Est-ce que vous voulez que vos jours soient prolongés dans le pays ? Oui, alors honorez vos parents. » Pour aller lire, hein, je ne vais pas les regarder, dans Ézéchiel 22, les versets 7 à 15, l'exil en Babylonie, la Babylonie a envahi Israël. Elle les a déportés. Une des raisons évoquées, ils n'ont pas honoré leurs parents. Très intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire que honorer ses parents veut automatiquement dire qu'il y aura longue vie, même pour eux? Alors, en fait, je vais poser la question tout à l'heure. Enfin, je la pose maintenant et je la réponds, mais elle est applicable dans une minute. On peut simplement... Oui, non, écoutez, je reviendrai. Deux. On voit que la première application, c'est la longue vie donc, du pays. Deuxième application ici, c'est la longue vie personnelle. Moi, je pense que cette promesse est aussi faite à des individus. Et ça, on le voit dans Deutéronome. Deutéronome 6, où il est dit ceci, au verset 1. Voici le commandement, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, donc toi personnellement, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces voies et tous ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Donc là, on a l'impression qu'il va du côté pays au côté individuel. Il dit, tu sais, ça va aussi apporter une sorte de longévité à ta propre vie. Ce même terme est utilisé de Salomon qui a eu une longue vie dans 1 Roi 3:14. Mais on le voit aussi, je pense que c'est vraiment applicable à nous personnellement, parce que dans Éphésiens 6, Nouveau Testament, c'est ce qu'il dit. Il dit au verset 3, enfin 2, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec promesse, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Ben là, c'est plus le peuple promis, là, il parle à des chrétiens individuels. Et, donc, longévité pour le peuple, deuxièmement, longue vie pour les individus, même dans le Nouveau Testament, et trois, bonheur. C'est ce qu'il dit exactement dans Éphésiens 6, verset 3, « afin que tu sois heureux ». Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'aime les petites formules. Tu veux être heureux dans la vie, une des manières, c'est d'honorer tes parents et d'obéir à tes parents. Intéressant. Alors maintenant, je pose la question. Est-ce que ça veut dire, alors, que quand j'honore mes parents, je vais automatiquement vivre vieux ? Alors, c'est un principe. Globalement, c'est probablement vrai. Pourquoi ? Bien, moi, je pense que globalement, c'est vrai parce que si tu apprends à obéir tes parents, tu vas apprendre à obéir à l'État. Et si tu apprends à obéir à l'État, tu auras moins de chances de prendre et de faire des choses stupides comme boire beaucoup et prendre le volant et aller beaucoup trop vite et t'écourter la vie par un stupide accident. Donc, dans ce sens-là, oui. Je pense que tu auras des plus grande chance de vivre longtemps à cause des choix que tu vas faire. Mais non, est-ce qu'un chrétien peut devenir malade ? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut mourir du cancer ? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un accident ? Oui. Mais globalement, par rapport à nos choix, je pense que c'est tout à fait vrai. Alors ça, c'est l'explication du cinquième commandement. Passons à la deuxième partie. Alors là, ça devient super intéressant, je trouve. L'application du cinquième commandement. Ok, mais John, comment faire pratiquement ? Comment faire pour honorer mes parents pratiquement ? Je vous donne 10 manières. Donc écoutez bien, d'accord ? Même les enfants, vous écoutez. 10 manières d'honorer vos parents. Numéro 1. Aime ton père et ta mère. Aime ton père et ta mère. Pourquoi ? Ben, je vais te poser des questions. Premièrement, qui t'a mis au monde ? Tu n'as pas besoin de répondre à haute voix, d'accord ? Qui t'a mis au monde ? Et les adultes aussi, hein, vous pensez à ça parce que vous avez des parents aussi. Qui nous a mis au monde ? Qui m'a nourri quand j'étais jeune ? Qui me faisait les repas ? Qui allait au magasin acheter tout ce qu'il me fallait ? Qui m'a donné mes vêtements ? Qui me prenait chez le médecin ? Qui m'a donné ma chambre et mon lit et mon oreiller ? Qui m'a donné mes jouets, mes cadeaux ? Qui m'a donné mes vacances ? Peut-être au ski, peut-être à la plage. Qui me prenait chez mes grands-parents ? Qui m'envoyait à l'école ? Ouais, mais ça, c'était pas marrant. Ouais, d'accord, mais tu as besoin de l'école. C'est pour ton bien. Qui t'apprenait à lire ? Qui lisait avec toi à la maison ? Et qui t'amène à l'église pour que tu apprennes à aimer Dieu ? Tes parents. Écoute, rappelle-toi de la tendresse de tes parents, ils t'ont aimé. Tu vois, d'aimer tes parents, c'est ton devoir, juste parce qu'ils t'ont aimé, toi en premier. Ils ont tout fait pour toi, tout. Pourquoi est-ce que tu ne leur donnerais pas l'amour en retour ? Donc aime ton père et ta mère. Numéro 2, respecte ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Ce mot hein, qu'on a vu, honorer, poids, respecter, ils ont du poids. Donc il y a une sorte de, waouh, papa et maman. C'est cette idée de respect. Et Lévitique 19.3 le répète, chacun de vous doit respecter son père et sa mère. Et là, en fait, c'est inversé, sa mère et son père. C'est intéressant aussi dans Hébreux 12.9. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans mon cœur, je les estime. Dans mon cœur. Et cela se montre d'une manière externe dans mon comportement. Je les honore, je les respecte. C'est eux. C'est eux qui sont chefs chez moi. C'est pas moi. C'est eux qui ont le poids, pas moi. Et mon cœur et mon corps le montrent. Je ne leur parle pas d'une façon méchante, ni malsaine, ni honteuse. J'utilise des paroles douces et tendres. Je ne suis pas impoli avec eux, mais non, je suis bon, je suis gentil avec eux. Oui, mais tu sais, John, tu comprends pas, mes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Ils n'étaient pas chrétiens. Et ils étaient désobéissants à Dieu. Ben écoutez, intéressant que ce commandement ne précise rien par rapport à cela. Il ne dit pas, ah, vous qui êtes chrétiens, vous devez obéir à vos parents chrétiens. Non. Non, il dit tout simplement, obéissez à vos parents, point à la ligne. Tu honores ton père et ta mère. Oui, mais ils ne sont pas toujours justes avec moi. Tu ne seras pas toujours juste avec tes enfants non plus. On monte dans une vie injuste. Ils essayent d'être justes avec toi. Mais parfois, ils sont injustes. Et s'ils en sont conscients, ils vont demander pardon à Dieu. Et s'ils doivent, ils te demanderont pardon à toi. Mais globalement, je pense qu'ils sont justes. N'oublie pas, ils savent mieux que toi. Ils ont eu plus de temps dans cette vie que toi. Dieu demande que tu les honores, que tu leur fasses du bien en pensée, en parole et en action. Oui, il y a un verset incroyable. Écoutez, Proverbe 30:17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les percent et les petits de l'aigle le mangeront. C'est drôle, hein, ce verset. Enfin non, il n'est pas très drôle. L'œil qui se moque du père et qui dédaigne l'obéissance envers la mère. Si tu moques tes parents, que les corbeaux viennent te manger. C'est exactement ce qu'il est en train de dire là. Tu dis, mais c'est quoi? Ben, ça montre que ça, c'est hyper important pour Dieu. C'est hyper important. 3. Obéis en toutes choses à ton père et ta mère. Attends, est-ce que j'ai bien compris? Toutes choses. Voilà, tu exagères. Hein? Je crois pas. Colossiens 3:20. Enfant. Je cite hein, la Bible. Enfant. Obéissez en toutes choses à vos parents. Pourquoi? Ben, la suite du verset. Car cela est agréable dans le Seigneur. En toutes choses? Réponse. Réponse? Oui. C'est ce qu'il dit. Mais oui. Mais pourquoi est-ce que je dois obéir en toutes choses? Parce que tu en as besoin. Un petit enfant est incapable de s'occuper de lui-même. Il a besoin de ses parents pour tout. Ils t'apprennent même à parler, à travailler, à tout. Les parents sont capitales dans une vie. Donc, soumets-toi à quelconque tâche que tes parents te donnent à faire avec joie. Nous, on disait souvent à nos enfants, on te demande d'obéir, mais avec un sourire dans ton cœur. C'est ce qu'on voulait. Parce que l'enfant, ça j'ai déjà souvent dit, on peut lui dire, assieds-toi. Alors l'enfant s'assied, puis ensuite il dit, maman et papa, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. Est-ce qu'ils sont assis ou debout? Ils sont malins, les enfants, vous savez. Moi, j'étais pareil, j'étais pas mieux, hein. Et c'est pour ça qu'on veut qu'ils sourient dans le cœur. Ça vienne du cœur. Pour leur montrer que leur cœur est déchu et qu'ils ont besoin de Christ. Tu dois avoir dans ton cœur le désir de leur plaire ainsi. Tu dois avoir la joie de leur obéir. Et tu devrais avoir le chagrin lorsque tu n'obéis pas. Tu devrais être triste. Oui, mais si mes parents ne sont pas chrétiens, j'obéis quand même. Oui, mais en tout. Moi, je dirais qu'il y a je dirais une exception. Si tes parents te demandent clairement de faire quelque chose qui n'est pas biblique, si tes parents te demandent de mentir, là, tu as le droit de dire, écoute, maman et papa, la Bible, Dieu ne veut pas que je mente, donc je ne peux pas t'obéir par rapport à ça. Mais tu dois payer les conséquences d'obéir à Dieu. Mais avant de désobéir, tu dois vraiment être sûr et certain qui te demande quelque chose de faire qui n'est vraiment pas biblique. 4. Accepte d'être instruit par ton père et ta mère. accepte d'être instruit par eux. Proverbe 1, 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. C'est merveilleux, je trouve. Attendez voir. Si tu écoutes et obéis l'instruction de tes parents, c'est comme une couronne sur ta tête. Les gens vont se dire, waouh, super. C'est ce qu'il dit. Une parure pour ton cou. Les gens, tu vas être honoré pour ça. Tes parents ont la tâche de t'instruire. Toi, ta tâche, c'est d'accepter leur instruction. C'est intéressant, non? La responsabilité sur les enfants, ici, je trouve ça absolument génial. 5. Accepte avec un cœur joyeux la correction de ton père et ta mère. Bon, j'en ai déjà parlé. Mais c'est intéressant que les parents doivent corriger, mais l'enfant doit accepter la correction. Moi, je me rappelle, dans certains cas, bon, je n'ai pas des cas précis, mais je me rappelle que pour nos enfants, parfois, quelque chose était fait qui était vraiment, disons, un acte de désobéissance, et ils nous réclamaient la discipline. Parce qu'on avait une habitude de discipliner. Et quand ils voyaient une injustice à leur égard, c'est-à-dire, disons que nous, on s'était trompés, et ils voyaient, ils avaient besoin de les corriger. Et je me rappelle, j'ai des souvenirs où ils réclamaient carrément la discipline. Et je me disais, mais c'est quand même génial, ça. Ça, c'est peut-être rare, ça n'arrivait pas tous les jours, d'accord, mais c'est arrivé occasionnellement, donc je m'en rappelle, d'accord. Mais voilà, l'enfant doit comprendre que Dieu demande aux parents de les discipliner, de les corriger, et donc eux, de leur côté, doivent dire, d'accord, maman et papa, j'accepte. C'est pratique tout ça, non, vous trouvez pas? Ah, c'est intéressant. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Si tu dédaignes leur correction, tu es insensé. Mais si tu acceptes, tu es prudent. 6. Demande à ton père et ta mère d'approuver tes amis. Quoi ? Je répète. Demande à tes parents d'approuver tes amis. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 13, 20 dit ceci, écoutez, celui qui fréquente les sages devient quoi ? Sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Enfin, il faut savoir que la première chose qui va probablement nous corrompre dans la vie, ce sont nos choix de mauvaise compagnie. Des amis qui veulent vraiment nous tirer vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'on a une tendance à vouloir copier nos amis. On copie les gens avec qui on est. Donc, si tes amis sont méchants, tu vas probablement devenir méchant. Si tes amis sont sages, tu vas probablement devenir quoi ? Sage. Principe biblique. Si tu choisis des amis paresseux, désobéissants, qui disent des gros mots, qui mentent, qui parlent grossièrement, qui volent, qui dédaignent la parole de Dieu, alors, devine comment tu vas devenir. Bien comme eux. Probablement, comme eux. Donc, de laisser les parents avoir un regard sur tes amitiés, c'est vraiment bien. Parce qu'ils savent, ils comprennent, ils connaissent. Ils ne sont pas bêtes. Alors, comment pratiquement ça se fait, ça, c'est à vous de voir, je ne sais pas. Mais d'avoir cette ouverture et ce regard, c'est positif. 7. Imite ton père et ta mère dans tout ce qui est bien en eux, pendant leur vivant, mais aussi une fois qu'ils sont morts. Imite tes parents. Regarde la vie de tes parents. Alors, ils ne sont pas parfaits. Moi, si je demandais à mes 3 enfants de faire une liste de toutes mes imperfections et de sa mère, ben écoutez, la liste, elle serait interminable. Je suis le premier à reconnaître que je suis un papa totalement, mais alors, à côté de la plaque et souvent. Mais on fait du mieux qu'on peut, Bible en main. Et nos parents savent très bien qu'on est imparfait. Et Dieu le sait aussi. Alors, regarde à tes parents et vois ce qu'ils font bien. Vois dans leur vie ce qui glorifie Dieu. Et là, copie-les et imite-les. Paul avait bien dit aux Corinthiens, n'est-ce pas, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » Nos parents sont nos modèles. Alors bien sûr, si les parents savent que les enfants les copient, ben, combien de fois j'ai dit des choses peut-être que j'aurais pas dû et que je vois un enfant qui me répète. Tu dis, « Attends, mais il me copie là. » Ben ouais, il copie. Donc, fais attention. C'est très bien, c'est très sain ça. Ah, les enfants, c'est très utile, vous savez. C'est très très utile pour beaucoup de choses dans la vie. 8. Honore ton père et ta mère lorsqu'ils sont vieux. Eh oui, vous savez, c'est intéressant. Moi, j'ai passé la cinquantaine et je vois que mon épouse et moi, de plus en plus, on parle de nos corps qui commencent à faire mal. Voilà. On commence à sentir nos corps vieillir. Vous dites, ouais, t'es encore jeune, merci. Mais écoutez, franchement, je le sens. D'accord ? Je ne rajeunis pas, ça c'est sûr et certain. Proverbe 23, 22 dit ceci. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ça va tellement contre culture aujourd'hui. Aujourd'hui, on se débarrasse des vieux. Non ! On doit honorer les vieux. On va tous devenir vieux, si on ne l'est pas encore. Nous devons honorer nos parents dans leur vieil âge. Lévitique 19, 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Ah, c'est une tragédie d'aujourd'hui de voir ça. Mon épouse est absente pendant 3 semaines aujourd'hui parce qu'elle est en train d'aider sa maman qui a besoin de son aide aujourd'hui. Alors je dis souvent, il y a un côté super sympa d'une vie internationale, mais il y a un côté très difficile de la vie internationale. Et beaucoup de vous, vous êtes de pays étrangers, vous avez des parents dans votre pays qui vieillissent, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais nous sommes quand même appelés à les honorer, à les aider. Et que Dieu nous aide à savoir comment faire à longue distance. Et nous, on a un budget spécial maintenant, billet d'avion. C'est obligatoire. 8-9, aide ton père et ta mère lorsqu'ils sont vieux. C'est intéressant, Jésus, il gronde les pharisiens justement parce qu'ils n'ont pas fait ça. Dans Matthieu 15, alors que les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils reprennent leur repas. » Et Jésus répond « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ? Car Dieu dit « Honore ton père et ta mère » et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites « Celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister à une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Ces pharisiens n'aimaient pas leurs parents, ils ne voulaient pas s'occuper d'eux, donc ils disaient « Moi je prends l'argent qu'il aurait dû et je le donne à Dieu. » C'est une offrande. Et Jésus dit « Là vous êtes des hypocrites. Aidez en premier vos parents parce qu'ils ont besoin de vous. » Nous avons des responsabilités, mes amis. Nous devons aider nos parents lorsqu'ils sont vieux. Et ceci mène au 10e point. 10e point, traite ton père et ta mère comme tu souhaites être traité par tes enfants lorsque tu es vieux. Et ouais, traite tes parents comme toi tu veux être traité par tes enfants. Parce que la manière que tu traites tes parents, les enfants vont le voir. Ils vont se dire, bah, si c'est comme ça qu'ils l'ont traité, c'est comme ça que je vais faire aussi. Et là, il y a la fameuse règle d'or. Règle d'or, Matthieu 7, 12, qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Mais oui. Vous dites « Oui, mais John, et là je termine. Tu comprends pas, je viens d'une famille complètement éclatée et décomposée. Mes parents, mais t'as voir, je les connais même pas. C'est possible. On vit dans un monde de famille, mais alors vraiment, vraiment éclatée. Et peut-être que vous entendez ça, vous dites, c'est super, c'est génial, mais ça ne s'applique pas à moi. Écoutez, là, je parle à nous en tant qu'Église. Moi, je pense qu'il y a vraiment des orphelins aujourd'hui. Des orphelins quelque part spirituels. Et c'est là, j'espère que l'Église devient cette famille, cet endroit où ces choses peuvent être appliquées, disons, sur un second degré. Nous sommes une famille. Et nous devons nous aider. Nous devons apprendre à honorer les personnes âgées et nous devons apprendre toutes ces choses que nous avons vues aujourd'hui. Et donc, nous avons vraiment besoin d'aider les personnes qui, peut-être, commencent vraiment à zéro, là. Et disent, mais John, là, aide-moi. Ben, nous devons les aider comme nous pouvons. Amen. Alors, je vous ai dit, hein, un court verset, longue explication. Que le Seigneur nous aide. Prenons quelques instants et pensons à ce que nous avons entendu et faisons le point dans nos propres vies, d'accord ? Inclinons-nous et pensons à cela.